J'aurais simplement une question d'abord, peut-être avant d'en poser une deuxième ou de commenter. C'est celle de savoir si tu considères que cette manière de faire de la philosophie, de concevoir le rapport au texte philosophique, elle vaut toujours pour la pratique philosophique actuelle, ou est-ce qu'il y a un moment où ça s'arrête? Dans ton exposé, j'ai pas compris si c'était quelque chose dont tu disais que c'était ça perdurait ou si c'était une époque du traitement du texte philosophique qui était bien circonscrite.
Voilà, dans les cas des personnes dont j'ai parlé, ce sont des gens qui ont innové la manière de faire de l'histoire de la philosophie. Au moins, ils ont amplifié les canons. Et ce qui produit aujourd'hui un effet assez fascinant chez les lecteurs de Foucault, c'est que lui, au moins, il lit des tragédies. Et il lit des tragédies, c'est-à-dire, il lit des textes qui sont, du point de vue des classements scolaires, plutôt dans l'histoire de la littérature. Et qui ne sont pas toujours recevables comme des formes d'argumentation philosophique. Dans le cas de Castoriadis, c'est différent, mais chez lui, il y a immobilisation énorme des sourds, pas seulement des sourds littéraires, pas seulement Thucydide. Dans ce cas, Thucydide, ce n'est pas une tragédie, c'est une histoire, ou c'est de l'histoire, entre guillemets. Et il y a de l'archéologie, il y a de l'histoire sociale du monde ancien et des histoires des élites. Donc, ce sont des gens qui ont fait, ou des penseurs qui ont amplifié les canons de la philosophie et qui ont, on pourrait dire, ils ont fait des critiques très fortes au modèle de commentaires des textes. Surtout chez Foucault, est plutôt très brillante dans son premier cours au Collège de France. Malheureusement, il n'a pas tenu son programme, il est changé, comme souvent c'est produit chez Foucault. Oui, dans le premier cours au Collège de France, il a proposé une théorie de quel est le commentaire, de quelle est la théorie du commentaire des textes. Il disait, voilà, c'était pris à Aristote, il y a des choses qui sont hors la philo. Tous les gens qui parlaient des pouvoirs, les sophistes, sont hors la philo. Mais les philosophes, ils sont toujours entre la vérité et la non-vérité. Ce qui permet aux commentateurs de toujours aller au texte et trouver quelque chose de nouveau. Et c'est la manière dont on fait de l'histoire de la philosophie, en excluant l'extérieur et en se concentrant dans l'intérieur où la vérité et la non-vérité sont toujours mêlées. Donc, première réponse, ce sont des gens qui ont fait une innovation, chacun à sa manière, du modèle de commentaire des textes. Si aujourd'hui, faire une théorie de la philosophie en général, ça serait complètement fou de ma part. Et ce qu'il faut faire, je crois que pour faire l'épreuve, il faut écrire et analyser les auteurs en prenant compte de son extérieur et voir les faits dans le monde des philosophes.
En fait, c'était simplement une question qui était liée au fait sur ces trois manières dont tu as indiqué que ces trois auteurs introduisaient des décalages dans la manière de faire de la philosophie en renouvelant le commentaire philosophique, en considérant qu'il était de prendre en compte cette question de l'intérieur et de l'extérieur, en amenant des éléments qui étaient pertinents pour effectuer ce commentaire-là. On pourrait aussi considérer que ça reste une manière extrêmement conservatrice de concevoir la philosophie, parce qu'elle continue de mettre en son cœur le commentaire de texte et l'histoire de la philosophie, qui est simplement réabordée, renouvelée avec de nouveaux outils. Cette manière de faire de la philosophie, en fait, qui est extrêmement située, en fait. Ça rejoint un peu le point qui était indiqué tout à l'heure. C'était quelque chose qui est, à partir de Kant, on commence à donner ce poids-là à l'histoire de la philosophie, et ça continue en Allemagne et en France, mais partout ailleurs qu'en Allemagne et en France, dans l'ensemble, ce qu'on appelle la philosophie continentale. Cette importance de l'histoire de la philosophie, elle a fortement décru, et il y a l'idée sur laquelle on peut foncer directement sur les problèmes. Les arguments d'histoire de la philosophie qu'on trouve chez les grands auteurs sont des outils dans une boîte à outils. C'est vraiment cette métaphore-là qui est utilisée. Et s'il n'y a rien à utiliser chez tel auteur, on le bazarde. Enfin, dans la manière dont en philosophie antique ou dont on travaille, on considère par exemple, je sais pas, chez Descartes, il y a très peu de choses à garder. Donc on s'en moque. Par contre, chez Locke, il y a tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes. Chez Leibniz, c'est pas mal. Si on considère la scolastique médiévale, par exemple, qui est une espèce de modèle de rigueur argumentative, d'échange, qu'elles sont absolument. Sous un espèce dégagé de plus sur la philo, il y a Aristote qui occupe une place énorme. C'est-à-dire qu'on argumente beaucoup, même certains diront on coupe les cheveux en quatre, etc. Précisément, on fait de la scolastique, mais il y a une espèce de rigueur démonstrative et argumentative qui est phénoménale. Et ensuite, on s'interroge dans une espèce de second temps sur la question de savoir si Aristote serait d'accord avec ça. Mais le cœur des échanges lui-même, il se dégage. Il n'y a absolument pas de questions, de commentaires de texte à l'infini, etc. On va prendre Porphyre, puis on va voir si c'est l'argument qu'il soutient fonctionne ou pas. Et on a un siècle de débats qui sont liés vraiment à la validité logique des arguments avancés, puis quelqu'un d'autre qui intervient. Et ce moment où l'histoire de la philosophie occupe cette place, en fait, il est extrêmement situé. Enfin, la philosophie telle qu'on la connaît, telle qu'on l'enseigne en France, elle existe depuis 150 ans, quoi. Elle existe depuis 150 ans et elle continue d'exister comme ça dans quelques pays d'Europe. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, finalement, cette question, c'est peut-être une manière de prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire cette manière dont Foucault, Castoriadis, ces gens-là prétendent refaire, renouveler la philosophie, s'inscrit parfaitement dans cette tradition de fétichisation du texte, qui consiste à dire que les problèmes philosophiques, on les trouvera et on les résoudra dans les textes philosophiques qui ont été canonisés. Simplement, on va soit élargir le canon, soit le rétrécir, soit le traiter différemment. Mais l'idée qu'on pourrait foncer directement sur les problèmes, ça, c'est une chose qui leur fait horreur.
Oui, j'avais une question pour Pierre Vesperini. Au sujet du passage et de votre plaidoyer sur l'effet parle. Là, je voulais savoir, dans les quatre extraits là, de 13 à 16, quel sens vous donnez au mot fait ? Bon, parce que dans les quatre extraits, moi, je vois des individus qui disent des choses, qui donnent des informations qu'ils pensent être des faits et dont nous, à 20 siècles après, il faut retrouver le sens que quand ils disent ou quand ils pensent que c'est des faits, quel sens ce fait a pu prendre pour eux. Donc je me disais, dire les faits parlent, est-ce qu'il n'y a pas une condensation un peu excessive qui court-circuite un petit peu le processus réel par lequel des gens font parler les faits.
Oui, vous avez raison, en fait, j'aurais dû préciser ce que j'entendais par fait. En fait, ce que j'entends par fait, ce n'est pas ce à quoi se réfèrent ces discours, mais les discours eux-mêmes. Pour moi, ces discours eux-mêmes sont des faits qui parlent. Mmh. Et en fait, ce que je veux simplement dire, c'est que je crois qu'une fois qu'on met en suspens le donné académique, on peut avoir affaire à ces discours comme à des faits, et à ce moment-là, bon ben, ça parle, ça oblige à changer ses programmes de lecture.
Non, je voulais simplement dire par rapport à ça qu'il me semble quand même que ces faits dont vous dites qu'ils parlent, ils parlent d'autant plus pour quelqu'un comme vous qui a présent à l'esprit tout un donné académique qui constitue d'une certaine façon des questions implicites, c'est-à-dire que au fond, j'ai l'impression, comme ça, si vous voulez, que ces faits parlent d'autant plus qu'ils contredisent de façon flagrante tel ou tel aspect d'un donné académique, mais encore faut-il le savoir. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai l'impression que ce donné académique mis en suspens, enfin, il est quand même présent dans un coin de tête et fonctionne comme un questionnement dans la lecture que vous faites, quoi. Enfin, il me semble un peu, non, on peut pas dire ça.
Bien sûr, mais pour vous donner un exemple de mon expérience, au tout début de ma recherche, donc quand je savais que bon, je sortais du lycée, quoi, quasiment, donc j'avais déjà un peu de données, parce que j'avais un cours de philo, hein. Mais je me rappelle très bien que ce que j'ai commencé à faire, c'est lire Les vies des philosophes illustres par Diogène Laërce, dans la Pochothèque, dont je ne connaissais rien. Je l'ai lu et je notais tout ce qui m'étonnait. Il y avait des tas de choses que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi il racontait des anecdotes un peu braques, un peu foutraques. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait toutes ces épigrammes. Pourquoi il parlait si peu des idées des philosophes. Vous voyez ? Donc je crois que même quand on ne sait rien ou pas grand-chose, on peut laisser les faits parler. Disons que, en gros, quand on lit Le métier de sociologue, on a l'idée s'écarter de l'empirisme et puis faire des... Je veux dire qu'on peut partir de l'inverse, sans forcément être naïf, etc. C'est tout ce que je voulais.
Oui, je voudrais juste faire un petit point sur votre intervention. Voilà, il y a dans les modèles philosophiques dominants, il y a aussi les commentaires des textes qui est tout au début de la carrière, mais il y a aussi, on peut dire, les gens qui parlent de tout. Et dans ce monde-là, où on peut, on met à dialoguer, on utilise parfois la métaphore de la boîte à outils, qui a été popularisée par Foucault, mais que, si je ne me trompe pas, il vient de Otto Neurath, du philosophe du cercle de Vienne, autrichien, Otto Neurath, un philosophe, un sociologue du cercle de Vienne. Et le problème de la boîte à outils, dans le modèle philosophique dominant, c'est qu'on ne voit pas pour les outils, mais on ne voit pas la boîte. On oublie qu'on ne peut pas faire sortir de n'importe quelle boîte, n'importe quel instrument. Et ça devient une forme parfois d'association libre, au fond assez scolastique, où on fait la confrontation on peut dire, d'un penseur avec la pensée planétaire, en disant, je prends cet outil. Mais ça ne tient pas, là. Ça ne tient pas. Parce que les outils qu'on peut trouver chez Aristote, chez Otto Neurath ou chez Foucault, ce sont des outils très marqués historiquement. Ils sont pas des... Parce que sinon, on dirait, c'est au fond de dire, la boîte d'outils fonctionne au fond qu'on informe de dire les contextes n'influencent pas la pensée. Parce que de n'importe quel contexte, on peut tirer un outil. Si on va jusqu'au fond avec la métaphore de la boîte d'outils, on doit montrer que l'outil est sorti de quelque part, et quelque part est très marqué historiquement.
Oui, il s'agit pas. Mais en fait, je pense qu'il y a ces deux approches possibles. C'est-à-dire que soit on se dit cet outil avait chez Aristote ou chez un tel type de fonction, et donc il s'agit de prendre en compte le contexte du philosophe en question, puis effectivement aussi, je parle un contexte social, plein d'éléments qui sont laissés de côté pour dire voilà la fonction que remplissait cet outil, voilà quelle était la nature de cet outil dans ce contexte-là. Ça, c'est une manière de faire, on peut considérer, enfin, ça, c'est intéressant, c'est faire l'histoire de la philosophie qui consiste à reconstruire un système de pensée et à pénétrer là-dedans, en disant justement peut-être qu'ils sont irréductibles les uns aux autres, mais on peut ne pas se prononcer là-dessus, décider de simplement de considérer un texte philosophique sans se préoccuper du sens que donnait à cet outil cet auteur-là, et dire, moi, quand je le lis, là, je vois un argument intéressant sur, par exemple, les universaux, sur la nature de la causalité, sur ce que je veux, etc. Et quand je lis ce texte-là, je vois cet argument, je le comprends comme ça, et je m'en sers, moi, pour le traitement de ma question de ce que c'est qu'une relation causale ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je peux laisser entièrement de côté la question de savoir quel était le sens dans le système d'Aristote de tel ou tel type d'argument qu'il utilise, cette division des causes entre quatre types, et dire, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant sur la manière de dériver telle thèse de telle thèse via tel argument, qui renvoie, enfin qui me sert parce que j'avais besoin de cet argument-là pour faire un pont entre deux thèses, et là j'ai l'impression que ça marche très bien. Mais je peux laisser entièrement de côté la question de savoir si ça correspond à ce qu'Aristote avait en tête et à ce qu'ont compris ses contemporains et à l'usage que l'histoire de la philosophie en a fait. En fait, une manière de faire de la philo qu'on appelle analytique, ça consiste juste à avoir cette approche-là vis-à-vis de l'histoire de la philosophie, quoi. Et alors effectivement, après on n'a plus beaucoup d'examens à faire passer aux étudiants. Si on dit que l'histoire de philosophie c'est ça, ben c'est compliqué pour faire passer une agrégation, c'est compliqué pour faire un enseignement universitaire, et c'est peut-être aussi des genres de raisons sociales qui expliquent pourquoi c'est un type de philosophie qui résiste, parce qu'on n'a plus un corpus sous la main sous lequel on peut faire travailler des étudiants, on en fait faire autre chose, quoi.
Mais ça, c'est d'utiliser pour l'histoire de la philosophie la différence entre le contexte de découverte et le contexte de justification. Qu'on l'utilise, c'est la science, mais je ne crois pas que c'est... Il faut démontrer que ça, c'est légitime par rapport à la philosophie.
Ben, c'est pas s'il faut le démontrer, c'est une pratique aussi. Je sais pas, par exemple, Wittgenstein, il disait, je suis assez fier, j'ai jamais lu une seule ligne d'Aristote de toute ma vie. Et puis, c'est pas seulement d'Aristote, il a à peu près rien lu en termes de philosophe. Il avait lu Frege et Russell, qui étaient plus ou moins des contemporains. Chez Frege, il y a quasiment aucun commentaire de qui que ce soit, etc. Donc, c'est des gens qui disent, on a tel problème-là qui nous occupe, le problème de la constitution d'un langage logique, ce que c'est que la nature de la référence, etc. On va utiliser un type qui on trouve bien, je sais pas, Locke, et puis on fonce directement dessus. Enfin, c'est une pratique qui est devenue dominante partout ailleurs qu'en France et en Allemagne.
Mais qu'on peut questionner. Si on considère intéressant la boîte d'où il vient les outils ou pas. Et pour un sociologue ou un historien, la boîte est toujours importante.
Oui, mais on peut les considérer comme ça.
Parce que sinon, on fait de l'association libre.
Mais c'est passionnant de reconstruire un système, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est pas une chose qui doit être négligée.
On peut dire que dans le système, il y a quelque chose qui résiste le temps. Mais il faut le montrer.
Oui, ça, on peut faire ça aussi.
On peut dire, ça qui a été vu chez Platon, c'est encore présent chez nous. Mais il faut le démontrer.
Oui.
Ça ne va pas de soi.
Ça va pas de ça, mais c'est juste une activité complémentaire, enfin, et qui est tout à fait passionnante aussi, savoir qu'elle était, c'est le problème qui a l'air d'être le même à 2000 ans d'intervalle, ça reste le même en réalité, etc. C'est des choses qui sont absolument passionnantes, et c'est un exercice super intéressant de reconstruire un système de pensée d'un philosophe, de voir comment ça évolue, les appropriations qui en ont été faites, pour quelles raisons, etc. Mais on peut considérer qu'il y a un en dehors de cette chose-là aussi qui existe, sans avoir à se prononcer sur la question de savoir si il y a des invariants au cours de l'histoire s'agissant du sens de tel ou tel outil, en disant « moi, je me saisis de ça, et puis après, en faites ce que vous voulez.
Bon, » je voudrais poser une question à Pierre Vesperini. Commentaire de texte. Donc, le texte 16, quand quelqu'un me consulte sur un des points les plus importants de son existence, par exemple l'acquisition de richesses ou le soin du corps ou de l'âme. Alors, quelles sont les options interprétatives pour ce fragment?
Ah ben alors justement, je n'en ai pas.
Oui. Je crois qu'on peut. Il suffit de voir que Platon est consulté par des gens sur la question des richesses, le soin du corps ou de l'âme. C'est-à-dire, je pense que ça parle. Oui. J'enregistre ce que dit Platon ici.
Mais alors, que disent les gens qui parle du miracle grec et de la figure quasi légendaire de Platon? Est-ce qu'il cite ce texte? Il glisse dessus?
Non, mais c'est pour ça que je parle, j'insiste sur cette importance de laisser les faits parler. Ouais. C'est que vous ne trouverez pas cette phrase citée dans la littérature secondaire, disons, dans la littérature académique. Il faut lire, Foucault dit ça quelque part, il faut tout lire. C'est pas possible, mais c'est vrai que si on veut avoir un projet, disons, archéologique du savoir, il faut effectivement lire un maximum de textes bruts. Voilà, la lettre 7, c'est la lettre autobiographique de Platon. Et là, là, j'aurais pu citer plein d'exemples comme ça, qui sont des exemples où on voit que ça ne se passait pas comme on pense.
J'ai pas ajouté juste une chose sur mon expérience. La lettre 7, il parle, si je ne me trompe pas, des rapports à la politique. Moi, comment on m'a enseigné ça, à moi? C'est que Platon, il avait marre de la démocratie athénienne. Il a vu que la politique était pénible. Mais par contre, ce que dit la lettre 7, c'est différent. Mes camarades, qui ont été éduqués par Socrate, mon oncle Critias, il a mis en place un gouvernement totalitaire, le gouvernement de 30 tyrans. Et quand j'ai vu ça, je suis parti. Mais expliquer la lettre 7 sans restituer le contexte, ça peut produire, c'est le fait qu'il y a encore aujourd'hui, une idée complètement fausse de ce qu'il voulait dire Platon. C'est-à-dire, je suis décidé de la politique. Non, j'étais décidé de la politique réactionnaire dont j'avais mis mes espoirs. Et pour ça, il faut reconstituer et savoir quel est l'espace politique où il a laissé Platon. Donc, c'est ça la question. Les paris philosophiques et sociologiques, les paris sociologiques, c'est qu'on comprend mieux les textes des philosophes si on fait bien l'histoire.
Moi, juste peut-être pour reformuler, en fait, on voit bien comment vous déconstruisez votre objet. Avec la sociologie notamment, on a plus de mal à voir peut-être comment vous le construisez, parce qu'on a l'impression finalement à vous écouter qu'il y a une sorte d'empirisme heureux qui serait secondaire après avoir déconstruit les... Et par ailleurs, moi, ce que je remarquais, c'est que la proposition 19, là, quand vous citez Bourdieu pour critiquer un peu cette prétention au modèle, je trouve que là c'est vraiment lui, c'est l'idée de sa construction. Et qu'elle est aussi traversée par des, enfin, dans le dialogue que vous avez avec lui, c'est aussi traversé par des clivages disciplinaires, académiques. Enfin, voilà, moi, je sais pas, je retrouve là-dedans toutes les discussions que j'ai avec les historiens sur la capacité de faire des modèles, etc. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de se débarrasser aussi de ces clivages académiques, pas seulement pour déconstruire, mais aussi pour construire, quoi?
C'est vrai que ma formation, de ce point de vue-là, enfin ma formation, je ne suis pas historien, je suis plutôt littéraire en fait, institutionnellement. Mais effectivement, ma démarche est une démarche très, très historienne, de ce point de vue-là. Et donc, elle donne vraiment, c'est vrai, dans cette priorité aux faits, aux données. Mais après, on voit comment les faits s'ordonnent. On voit, par exemple, qu'il y a des oppositions entre, par exemple, différents types de philosophie. Différentes conceptions de la philosophie. Et je serai très bref, mais en fait, le mot philosophia dans l'Antiquité ne correspond jamais au mot philosophie moderne. Il y a trois sens différents. Il y a la philosophia encyclopédique, celle dont je vous ai montré la ronde là. Il y a la philosophia éthique,
qui est en fait la science de la bonne conduite, qui n'a rien de spirituel, non, c'est la science de la bonne conduite sociale. Et puis il y a la philosophia, qui est une connaissance sur les dieux, sur le divin, là, où philosophie est interchangeable avec théologia. Donc c'est, voilà, c'est, je ne veux pas trop m'étendre, mais ce repérage, c'est un repérage que j'ai fait, ce n'est pas un modèle que j'ai construit, c'est effectivement, j'ai vu à force de lire, de voir comment des gens s'opposaient, défendaient différentes formes de philosophia, j'ai vu qu'en fait, effectivement, il y avait trois grandes conceptions de la philosophia qui vivaient, disons, dans les textes. Donc, il faut effectivement commencer par s'imprégner, noter ce qui est étonnant, et puis petit à petit, on voit des ordonnancements se faire.
Derrida dit quelque part que dans la philosophie, il y a les textes académiques qui sont traités de façon académique. Et il lui dit, moi, je travaille les textes académiques de façon non académique, et je travaille aussi sur des textes qui ne sont pas académiques. Donc il y a deux façons d'analyser ça. Soit on dit, dans le milieu dans lequel il est, c'est illégitime ce qu'il fait, c'est hérétique, donc c'est courageux. Ou alors de l'extérieur, on dit, c'est encore la fétichisation du texte, c'est conformiste, donc on discrédite. Après, donc, on a deux analyses, la 1 ou la 2. Et la question, c'est comment on peut décider de la 2 plutôt que de la 1? Et donc, comment un sociologue ou un historien peut dire, moi, je sais que c'est du conformisme, et voilà, ça m'impressionne pas plus que ça. Ou la personne dit, ben oui, au contraire, c'est très courageux, ça a apporté beaucoup de choses à l'histoire de la philosophie, c'est passionnant, j'adore Derrida, et voilà. Enfin, donc, comment on décide entre 1 et 2?
Alors, je voudrais profiter de votre question pour revenir sur ce débat autour du commentaire du texte philosophique. Je pense que une des choses que j'aime beaucoup chez Bourdieu, c'est la mise en garde contre les fausses antinomies. Et je pense que, en l'occurrence, nous sommes pris dans une fausse antinomie entre, d'un côté, une lecture historiciste ou sociologique qui, au fond, réduirait le texte à ses conditions sociales, pour le dire vite. Et de l'autre, un commentaire enchanté, complètement interne, etc. Bon. Ces deux démarches sont deux versions caricaturales, à mon avis, du commentaire de texte. Je pense que, premièrement, je pense qu'on peut parfaitement associer à la fois un ancrage social d'un texte, vraiment faire de l'histoire culturelle d'un texte, et en même temps, sans pour autant dire que tout le texte, qu'on peut rendre compte de tout le texte par le contexte social. Ça, c'est une chose dont j'aimerais discuter avec vous. J'ai lu Les règles de l'art, par exemple, ou le livre de... je ne connais pas le prénom de Madame Boschetti Anna Boschetti sur Apollinaire. Et bon, alors c'est absolument passionnant de voir comment on peut effectivement contextualiser Apollinaire ou Baudelaire, et c'est absolument nécessaire. Mais pour autant, je trouve qu'il y a quand même un moment où la démarche sociologique ou historiciste s'arrête. On ne peut pas rendre compte de tout Flaubert ou de tout Apollinaire par la sociologie, je crois. Il faut faire une place, c'est ce que je propose, à une certaine autonomie de, bon, ce que j'appellerais entre guillemets la créativité. C'est-à-dire qu'il y a une créativité intellectuelle ou artistique ou littéraire, et il est important, évidemment, on ne peut pas comprendre Manet sans l'inscrire dans une société, mais on ne peut pas tout comprendre de Manet en l'inscrivant dans une société. Donc je pense que le commentaire d'un texte philosophique... récemment, j'ai lu un article sur Deleuze dans la revue, le numéro que vous m'avez pas envoyé, Zach, de la revue en sciences sociales. Donc sur Deleuze, ancré dans sa réalité sociale. C'était très intéressant, mais je veux dire, on ne peut pas réduire la pensée de. Enfin, on ne peut pas rendre compte, je ne veux pas dire réduire, hein, mais rendre compte de la pensée de Deleuze uniquement à partir de ces déterminations sociales, aussi importantes soient-elles. Même quand Bourdieu s'applique à lui-même cette démarche en disant « Oui, les gens comme Derrida, Foucault et moi, notre travail, ça participe d'une humeur anti-institutionnelle. » D'accord, mais enfin c'est un peu court, on ne va pas dire que Bourdieu, la pensée de Bourdieu, ça vient de son histoire. D'accord, ça joue, mais ce n'est pas tout Bourdieu. Il y a une créativité chez Bourdieu. Donc, pour revenir à la question du génie, un jour quelqu'un a dit, c'est très à la mode de dire le génie, quelqu'un a dit un jour, Foucault n'était pas un génie, c'était juste un gros bosseur. Bon. Je suis désolé, il y a des tas de gens qui peuvent être des gros bosseurs, ils ne vont pas écrire les mots des choses à l'archéologie du savoir. Je pense que, de même qu'il y a des gens qui sont des pianistes extraordinaires, ou des artistes, des joueurs de football, je ne pourrais pas être Ronaldo, même si j'étais un gros bosseur, bon, il y a des gens qui ont des capacités à créer des œuvres conceptuelles. Et donc on peut parfaitement, je pense, à la fois, rendre compte des conditions sociales, tout en rendant compte aussi de l'autonomie d'une pensée.
Nous allons peut-être clore là-dessus, parce que ce débat, évidemment, est immense. Ça peut faire l'objet, éventuellement, de journées d'études ultérieures. Simplement, si tu veux intervenir rapidement pour...
Oui, et la créativité d'un philosophe, c'est aussi les commentaires qu'il faut les philosophes sur ces philosophes-là. Il y a un livre de philosophie traditionnel, pas écrit par un sociologue, qui est Pierre Robin, que les problèmes d'être chez Aristote, où il nous montre qu'Aristote était passé inaperçu ou presque inaperçu pendant des siècles. Il a été récupéré et lu. C'est le moment où Aristote il est devenu le maître de ceux qui sachent. Mais c'est le travail que commentateurs d'Aristote, ils l'ont fait d'Aristote. Il y aura un Aristote qui est né dans le monde scolastique, il y aura aussi un autre Aristote qui est né dans la lecture qui fait par exemple Rancière et Castoriadis, si elle est bonne. Première chose, il y a les commentaires. C'est les commentaires qui produisent de la créativité, donc c'est une action sociale spécifiquement. Bien sûr, il faut avoir des virtualités dans les textes qui permettent ça. Mais on ne peut pas détacher les virtualités, c'est-à-dire les textes purs et l'action du commentateur. Et c'est une institution sociale, l'institution des commentaires. Deuxième chose, bien sûr, qu'on doit toujours justifier quels sont les éléments extradiscursifs qu'on fait intervenir dans l'explication du texte. Mais je crois que le pari d'une histoire sociale de la philosophie est de montrer qu'on limite les textes, même du point de vue philosophique, si on ne s'arrête pas à des sources exclusivement philosophiques.